Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Pierre Garungu.
Vous suivez la radio Nzamba, Agathe Kakawe. Merci pour votre fidélité. C'est le moment du journal en français, dont voici d'abord les principaux titres. Le 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Au Burundi, des consommateurs de l'information déplorent que les journalistes soient muselés et traitent seulement les sujets qui ne gênent pas le pouvoir. On fera le point dans ce journal. Et puis 5 personnes tuées, 11 autres blessées et beaucoup de champs et de maisons endommagés. Tel est le bilan des dégâts causés par des pluies diluviennes qui se sont abattues hier sur la colline Nyangarange en commune de Sigati de la province Rubanza. Les victimes demandent une aide d'urgence. Enfin, les camionneurs burundais faisant le transport vers la Tanzanie et le Kenya se lamentent. Ils disent être gênés par des demandes exagérées des documents de voyage pendant le transport. Voilà pour le sommaire de ce journal. A tout de suite.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Des sujets qui plaisent au pouvoir de Gitega, c'est le gros des programmes des médias qui exercent sur le sol burundais. Constat de la population qui s'est exprimée sur nos ondes à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse. Elle demande au gouvernement d'accepter des critiques des journalistes et des médias indépendants pour trouver solution à certains défis auxquels le pays fait face. On les écoute.
Cette journée de liberté de presse au niveau mondial, chez nous où nous vivons, nous ne sommes pas contents de la façon dont la liberté de la presse est respectée. Et ici, au Burundi, nous voyons quelquefois les journalistes sont harcelés et ils sont contraints parfois de, d'abord donner une information à qui d'autre voit. On appelle le gouvernement pour qu'il le fasse, qu'il la censure, ce qui n'est pas correct. Nous avons vu des fois des journalistes incarcérés dans des cachots. Nous avons le cas de Florian Gagné, qui a été emprisonné d'une façon illégale, alors qu'il était sur son métier de journalisme. Et nous avons aussi Jean qui a été porté disparu il y a quelques années. Celui-ci tentait de travailler sur des sujets qui ne plaisent pas au gouvernement. Donc, le problème est que lorsque le journaliste a des informations à un journal, a des informations à donner à la population qui ne plaisent pas, mais qui ne plaisent pas au gouvernement, celui-ci est poursuivi. Quand des journalistes exilés sont nombreux, vraiment, c'est pas bien le métier de journalisme. La presse, la liberté de la presse au Burundi n'est pas respectée du tout. Et vous demandez alors au gouvernement de changer cette attitude. L'attitude qui ne plaît pas à la population, écrit nous-mêmes.
La population burundaise n'a pas le droit de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Ils sont appelés à dire des louanges aux autorités burundaises. Direct, il y avait donc la liberté de la presse, parce que les journalistes avaient le droit de dire l'information. Parce que les journalistes avaient le droit d'interviewer la population. Mais si tu es un journaliste, tu dois demander des autorisations ici et là pour que tu puisses au moins faire un reportage. Troisièmement, la population n'est pas libre de parler, de dire ce qui ne va pas. Or, pour que le pays se développe, doit avoir une liberté de journalistes. Vous comprenez que s'il y avait de la liberté de la presse, tous les journalistes du Burundi auraient été ici pour servir ensemble cette journée. Vous comprenez qu'il n'y a pas de la liberté de la presse au Burundi.
Nous demandons plutôt au gouvernement de laisser afin que ces actions qui ne plaisent pas au gouvernement soient diffusées, soient relatives, soient dites à la population et au gouvernement aura alors l'occasion de se corriger. Sinon, le gouvernement persévérera dans ses erreurs. Sinon, ça serait l'occasion de se corriger. Mais Alors que le journaliste n'est pas énuméré comme élargément, le gouvernement persévérera dans ses erreurs.
Le domaine de la communication présente toujours des lacunes au Burundi, selon Faustin Ndikumana, directeur national de l'ONG locale, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, par Sème Sigle. Il demande au ministère de la Communication de mettre en application les recommandations issues des derniers états généraux de la communication. On l'écoute.
Au moment où le monde entier célèbre la journée internationale dédiée à la liberté de la presse et des médias, personne ne s'exprime par rapport d'abord à la tenue en novembre des états généraux de la communication, un événement qui avait été très important dans ce secteur parce que ça avait été une occasion de faire une introspection, de faire une analyse profonde sur le fonctionnement de ce secteur fondamental. Mais aussi, ça avait été l'occasion d'analyser profondément les entraves qui peuvent gêner l'épanouissement du secteur des médias et de la communication. Alors, au lendemain, on avait souhaité avoir les recommandations de ce forum, de ces états généraux, des recommandations parce que ce jour-là, on n'a pas pu les lire en entièreté. On avait souhaité que le ministère organise notre journée pour s'approprier ces recommandations, surtout ceux qui avaient participé dans ces états généraux, dans leur diversité. Il y avait aussi d'autres partenaires techniques et financiers qui avaient soutenu l'événement. Imaginez que la sortie des recommandations et de surcroît que le gouvernement s'approprie pourrait permettre à ce qu'on ait un document unique sanctionnant justement la tenue de ces états généraux. Et après la sortie du document, on devait alors faire une planification opérationnelle pour la mise en application progressive de ces recommandations. Parce que les états généraux se sont tenus l'an dernier, le premier état généraux s'était tenu 10 ans avant, c'est-à-dire que les autres pourraient se tenir 10 ans après. Donc sans planification opérationnelle pour mettre en application progressivement le contenu des recommandations, alors on dira que tout ce qu'on aura parlé pendant le forum risquerait de rester lettre morte. Donc c'est un comportement à bannir si on veut réformer, si on veut se tourner vers le chemin de la croissance, aboutissant vers l'émergence. Parce que organiser un tel événement, des idées pertinentes qui sortent et ne sont pas tenues en compte le lendemain pour changer nos modes de fonctionnement, notre mode d'opérationnalisation des choses. Et j'imagine que les choses ne vont plus bouger, on risquerait de rester dans le statu quo.
Cette journée mondiale de la liberté de la presse arrive au moment où au Burundi, la journaliste Floriane Ilangabiye croupit encore sous les verrous, condamnée à une peine de 10 ans pour son métier de journaliste. Innocent Mohodi, président de l'Observatoire de la presse au Burundi, condamne cet emprisonnement qu'il trouve injuste et demande la libération sans condition de la journaliste. On l'écoute.
La seule femme journaliste en prison en Afrique, c'est au Burundi qu'elle se trouve, c'est Floriane. C'est encore une fois une journée qui arrive pendant que plus d'une centaine de journalistes sont toujours en exil, que 7 des responsables des médias indépendants ont été condamnés à la prison à perpétuité, que les médias qui travaillent au Burundi ne travaillent que sur des sujets autorisés par les officiels, puisque les questions sensibles peuvent entraîner des représailles les plus terribles, comme on l'a déjà vu, certains y ont laissé la vie. C'est une journée donc qui commémore, mais dans un contexte qui n'est absolument pas favorable à la liberté de presse au Burundi. Nous demandons avec insistance au gouvernement, au président de la République, au moins de libérer Mme Floriane Ilangabiye, qu'elle retrouve les siens, qu'elle retrouve ses enfants. Elle n'a vraiment rien à faire en prison. On ne peut pas accuser cette femme d'atteinte à la sécurité de l'État, de mettre en danger l'intégrité du pays. Elle n'en a ni le moyen, ni la capacité. C'est évident. C'est une condamnation totalement abusive pour des raisons que nous n'arrivons toujours pas à comprendre. Mais il est également fondamental qu'un dialogue s'amorce avec les responsables des médias indépendants, les autres acteurs de la société civile et des politiques qui sont de l'opposition, pour qu'on trouve tous ensemble une façon de vivre ensemble, parce qu'on devra bien vivre ensemble, tôt ou tard, et il serait mieux que ce soit le plus tôt possible, on a déjà perdu beaucoup de temps. Il serait vraiment fondamental qu'on accepte de se mettre ensemble, de discuter, de lever le problème qu'il y a entre nous, et de reconstruire notre pays tous ensemble. Parce qu'encore une fois, qu'on le veuille ou non, on devra vivre ensemble, autant le faire le plus tôt possible, avant qu'on accumule encore plus de rancœurs, encore plus de blessures, encore plus de tragédies. Bonne journée de liberté de presse à tous mes collègues journalistes burundais, malgré ce contexte difficile. Beaucoup de courage et d'amitié à notre consoeur Floriane Ilangabiye.
Dans un appel lancé par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, il a indiqué que les journalistes œuvrent pour la vérité et que le monde a le devoir de les soutenir. Il demande que les assassinats, intimidations et autres emprisonnements arbitraires dont les professionnels des médias sont victimes s'arrêtent. On écoute Antonio Guterres.
For three decades, on World Press Freedom Day, the international community has celebrated the work of journalists and media workers.
Durant trois décennies, lors de la Journée internationale de la liberté de la presse, la communauté internationale a célébré le travail des journalistes et des professionnels des médias. Cette journée met en lumière une vérité essentielle. Toute notre liberté repose sur la liberté de la presse. La liberté de la presse est le fondement de la démocratie et de la justice. Elle nous offre à nous tous les outils pour forger une opinion et dire la vérité au pouvoir. Et comme le thème de cette année nous le rappelle, la liberté de la presse représente l'essence même des droits de l'homme. Mais dans tous les coins du pays, la liberté de la presse est attaquée. Mais dans tous les coins du monde, la liberté de la presse est attaquée. La liberté est menacée par la désinformation et le discours de haine qui veulent brouiller les lignes entre les faits et la fiction, entre la science et la conspiration. La concentration toujours plus forte de l'industrie de la presse entre les mains d'un petit groupe, l'effondrement financier de dizaines d'agences de presse indépendantes et la multiplication des lois et réglementations nationales qui étouffent les journalistes, renforcent encore la censure et menacent la liberté d'expression. Pendant ce temps, les journalistes et le travail des médias sont directement ciblés en ligne et hors ligne au plus fort de leur travail. Ils sont régulièrement harcelés, intimidés, détenus et emprisonnés. Au moins 67 professionnels des médias ont été tués en 2022, avec une augmentation incroyable de 50% de mètres par rapport à l'année précédente. Au moins 3/4 de femmes journalistes ont subi des violences en ligne et 1/4 ont été physiquement agressées. Il y a 10 ans, les Nations Unies ont mis en place un plan d'action pour la sécurité et la protection des journalistes et du personnel de médias et mettre fin à l'impunité des crimes commis contre eux. Aujourd'hui, comme toutes les journées de la liberté de la presse, le monde doit parler d'une même voix. Arrêter les menaces et les attaques. Arrêter de détenir et d'emprisonner pour leur travail. Arrêter les mensonges et la désinformation. Arrêter de vous en prendre à la vérité, à ceux qui disent la vérité. Comme les journalistes se tiennent debout pour la vérité, le monde se soutient à leur côté.
Stop the lies and disinformation. Stop targeting truth and truth tellers. As journalists stand up for truth, the world stands up with them.
Inzamba.
Dans la suite de ce journal, un corps sans vie d'une jeune femme connue sous le prénom de Séraphine et mère de 4 enfants a été découvert sous un avocatier le matin de ce mardi au chef-lieu de la commune et province Lutana. Elle ne portait qu'un t-shirt, signe que ses bourreaux l'auraient violée avant de lui ôter la vie, selon ceux qui ont vu son corps. Les voisins disent que depuis la nuit du 1er mai, Séraphine était introuvable. Ils ajoutent qu'elle n'était pas en bon terme avec son mari. Selon une source policière, son mari est réputé vendeur de stupéfiants et est originaire de la commune de Bunga Kayove, tandis que la victime est originaire de la province de Karoussi. Son mari a été arrêté pour des raisons d'enquête. Et je vous le disais en titre, 5 personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans un éboulement de terrain provoqué par des pluies torrentielles mêlées de vents violents qui se sont abattus sur la colline Nyengarange en commune de Gazi de la province de Ubanza ce mardi. L'administration communale demande aux bienfaiteurs de prêter main forte aux victimes. Le point avec Francine Kanyange.
Les 5 personnes mortes étaient d'une même famille. La maison dans laquelle elles se trouvaient s'est écroulée sur elles. Le drame s'est produit sur la colline Nyengarange, selon les sources administratives à Lugazi. Quant aux 11 blessés, ils dormaient dans 3 maisons qui se sont également effondrées sur les collines Tsiouye, Nyengarange et Utavuka. D'autres dégâts ont été enregistrés. C'est le cas des tuyaux de la régie des eaux qui acheminent l'eau potable à Muzinda et Tcharama. Ils ont été sérieusement endommagés au niveau de la colline Rougoumé. De vastes étendues de champs ont également été dévastées par ces pluies, selon toujours des sources administratives. Les personnes blessées sont actuellement sous traitement dans différentes structures de santé à Lugazi. Les personnes sinistrées par ces intempéries sont dans une désolation totale. Les mêmes sources précisent qu'elles sont hébergées par leurs voisins. L'administration de la commune Lugazi demande aux bienfaiteurs de venir en aide à ses victimes.
Merci Francine Kanyange. Et pour clore ce journal, grognent des chauffeurs burundais qui partent dans des convois en Tanzanie et au Kenya. Ils disent qu'on leur demande beaucoup de documents et que cela entrave leurs activités. Ils implorent l'intervention du président de la République. Des détails avec Eddie Claude et Nahazwe.
Ces chauffeurs privés qui partent en convoi vers la Tanzanie et le Kenya pour amener des véhicules de leurs clients disaient qu'ils viennent de passer plus de 50 ans dans ce métier et qu'ils n'avaient jamais connu de problème avec leur patron. Selon des sources internes, il y a eu une association qui est en train d'entraver le bon fonctionnement de leurs activités à les exigeant de nombreux documents avant de partir dans le convoi. Ils implorent l'intervention du président de la République.
Ils nous ont imposé d'autres fardeaux. Le ministère ayant le transport dans ses attributions a décidé d'exiger à chaque chauffeur qui parte en convoi de payer 50 000 francs burundais. Ça fait 2 mois que nous payons ce montant qu'ils appellent taxe de convoi. Nous avons accepté de payer cet argent car c'est pour le bien du pays, mais il y a d'autres fardeaux qui nous imposent. Aller chercher des documents chez le notaire, accompagné du propriétaire du véhicule qui nous envoie en convoi. Il faut aussi écrire au ministre pour demander l'autorisation. Je peux passer 2 semaines sans obtenir tous ces documents. Nous, ce que nous demandons, c'est vrai, nous acceptons de payer les taxes comme tout le monde. Cette association de près de 2 millions par an, mais chaque chauffeur qui part en convoi doit payer 50 000 par mois. Il y a au moins 5 véhicules qui entrent. Ça fait au moins 5 millions qui entrent dans la caisse de l'État. Pour nous, cela ne pose pas de problème, car c'est pour le bien du pays. Nous implorons le gouvernement en premier lieu, le président de la République, pour nous venir en aide en supprimant l'exigence de tous ces documents qui, du reste, sont difficiles à obtenir.
Vous savez que ce sont ces chauffeurs de convoi qui amènent tous les véhicules de l'État, de la police, de l'armée, sans oublier des privés. Face à toutes ces inquiétudes, la rédaction de la radio Izamba n'a pas encore eu la version officielle du ministère des Transports pour plus de lumière sur ce dossier.
Merci Eddie Claude Nina Adjoué pour toutes ces précisions. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Au revoir et à la prochaine.